It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Une émission réalisée en partenariat avec Orbis Géopolitique, intelligence économique, veille, communication d'influence. Orbis mobilise un large spectre d'experts pour mettre la géopolitique au service de votre entreprise. Retrouvez tous nos services sur orbis-géopolitique.fr.
Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits, ravi de vous retrouver pour cette série d'été consacrée à la philosophie politique et aux grands auteurs. Vous pouvez retrouver les autres émissions de cette série sur notre site internet revueconflits.com, site internet sur lequel vous pouvez également vous abonner, faire abonner vos proches. En vous abonnant, vous nous permettez d'assurer le développement de Conflits et donc de vous proposer notamment ces programmes en libre accès. Et puis, sur notre site internet, vous pouvez également retrouver, ainsi qu'en kiosque, notre dernier numéro qui est consacré au terrorisme, « Terrorisme, la menace sans fin », ainsi que notre numéro spécial « Géopolitique de la santé », qui est donc consacré à ces questions combien importantes des vaccins, des médicaments, des grandes entreprises pharmaceutiques. Mais cette semaine, nous allons donc nous éloigner de la question du terrorisme et de la question de la santé pour aborder un des grands auteurs de la philosophie politique, à savoir Friedrich Hegel, George Friedrich Hegel, qui est né en 1770 et qui est décédé en 1831 à Berlin. Il est peut-être l'un des représentants les plus célèbres de la philosophie allemande, avec Kant notamment, avec Nietzsche aussi. Une œuvre monumentale, abondamment étudiée par les étudiants, par les universitaires, mais pas que. Et comme nous allons le voir, sa pensée politique a été extrêmement importante et a contribué non seulement à irriguer la pensée d'autres philosophes, mais aussi à modifier, à influencer la manière dont la politique a été pratiquée. C'est donc de Hegel que nous allons parler cette semaine avec mon invité Thibaut Gresse. Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous avions fait une précédente émission qui était consacrée à Descartes. Et puis dans le numéro de conflit consacré à la géopolitique de la peur, vous aviez également consacré un article où vous étudiez notamment Machiavel. Et vous êtes donc professeur de philosophie en Cagne, au lycée Blomet à Paris. Vous avez publié de nombreux ouvrages, mais un dernier qui vient de paraître, que vous avez dirigé chez Ellipse, la philosophie en 60 livres, avec plusieurs participants de cet ouvrage collectif, mais vous avez notamment rédigé les rubriques consacrées à Hegel. Alors, Hegel, on le connaît notamment pour ses principes de la philosophie du droit. Est-ce qu'on peut dire que c'est le maître ouvrage de Hegel, notamment en matière de philosophie politique?
Alors oui, c'est une sorte d'excroissance du troisième moment de l'encyclopédie qu'il avait intitulé l'esprit objectif et qui, enfin, philosophie de l'esprit et en particulier l'esprit objectif, et il va développer de manière encore plus approfondie et plus précise une philosophie politique qui n'est pas une théorie politique, mais qui est véritablement une manière de penser le sens des concepts qu'on utilise en politique et qui va prendre la forme, en effet, des principes de la philosophie du droit en 1820 et qui constitue sans doute une des portes d'entrée les plus impressionnantes dans la pensée hegélienne.
Alors, Hegel est un penseur, mais souvent on a parfois tendance à couper les penseurs de leur époque. Mm-hmm. C'est aussi quelqu'un qui a été marqué par son temps, la Révolution française, évidemment, mm-hmm. en 1789, l'aventure napoléonienne. Il a pris parti pour Napoléon, notamment. Il a beaucoup voyagé, Hegel, mais il a été à Iéna au même moment que Napoléon. Après, mm-hmm. il a enseigné à Berlin. Est-ce que dans ses principes de philosophie politique, quelle est la part qu'il y ait aux événements historiques qui ont notamment contribué à sa réflexion de l'histoire, et une partie, on pourrait dire, plus intemporelle des principes généraux qu'il a pu définir?
Alors, l'un des points fondamentaux de la philosophie hegélienne, notamment en matière politique, c'est qu'il n'y a pas de principe intemporel, justement, pour une raison qui tient à la question de ce qu'il appelle l'abstraction. C'est-à-dire, quand la pensée atteint son degré le plus élevé, elle ne peut pas d'un côté poser des principes qui ne seraient pas soumis au temps et constater de l'autre côté le temps qui passe. Si on procède ainsi, on entre dans des scissions, et si on est dans des scissions, on est dans des abstractions. Par conséquent, chez Hegel, l'une de ses grandes exigences et qui rend sa difficulté très sa philosophie très compliquée, c'est d'essayer de penser ensemble des exigences complémentaires. En l'occurrence, les questions des principes doivent être pensées en même temps que le développement historique. On ne peut pas penser un principe indépendamment de son développement. Et de ce point de vue-là, votre question est très juste, puisque le temps que Hegel a à penser est un temps napoléonien, un temps de transformation, de bouleversement. Et rétrospectivement, il peut ressaisir les bouleversements du temps dans une pensée des principes.
Quelle est justement pour lui cette distinction que vous avez faite au début entre philosophie politique et théorie politique ?
Alors ça, c'est, je pense, la chose la plus difficile à comprendre avec Hegel, au-delà de la question politique, c'est qu'il n'y a pas de théorie au sens traditionnel du terme chez Hegel. Pour le dire très simplement, Hegel n'a pas de position propre sur quelque sujet que ce soit. Vous ne pouvez pas demander à Hegel quelle est votre position sur la question de la conscience, sur la question du désir, etc. Autrement dit, Hegel ne parle pas en son nom propre, et ce n'est pas en son nom propre qu'il donne une analyse d'une situation. Hegel, s'il procédait ainsi, entrerait en contradiction avec l'idée même qu'il ne faut pas être dans la scission et être dans l'abstraction. Sinon, si vous voulez, il y aurait d'un côté la réalité, de l'autre Hegel, et Hegel aurait un point de vue extérieur à la réalité sur laquelle il donnerait son point de vue, ce qui en fait constitue la plupart des philosophies classiques, qui sont des théories. Et justement, ce que Hegel essaye de faire, c'est de montrer que la philosophie que lui pratique dépasse cette scission entre celui qui a un point de vue sur le réel et le réel, c'est-à-dire, en fait, dépasse la scission entre l'être et la pensée. Sinon, on en reste toujours à un point de vue extérieur. Par conséquent, la différence entre théorie et philosophie, c'est que dans la théorie, j'ai un point de vue extérieur et j'interprète la réalité qui me demeure externe, tandis que dans la philosophie, j'essaye de saisir de l'intérieur la nécessité conceptuelle qui est à l'œuvre. Et donc, ça revient à dire, si vous voulez, que Hegel analyse la notion même de compréhension. Qu'est-ce que veut dire comprendre, et notamment comprendre d'un point de vue philosophique ? À quelles conditions peut-on dire d'une réalité qu'elle est compréhensible ? Et ce qu'il essaye de montrer, je crois, c'est que on peut dire qu'une réalité est compréhensible à partir du moment où elle est de même nature que moi, où elle est homologue à moi. Et c'est la raison pour laquelle la philosophie essaye de montrer que la réalité est rationnelle en tant qu'elle est homologue à ma raison. Le rationnel est le reflet, si vous voulez, de la raison, et c'est pour cette raison-là que le réel est compréhensible. Donc c'est pas une théorie sur le réel, c'est une compréhension de l'intérieur même de la réalité, ce qu'il va appeler l'effectivité.
Et la place de l'histoire chez Hegel, on parle beaucoup de sa philosophie de l'histoire, justement. Oui. Alors, est restée peut-être dans la conscience commune cette notion de dialectique, qui n'est pas vraiment la dialectique marxiste, par ailleurs. Qu'est-ce que Hegel entend par ça, par cette dialectique?
Alors, la question de l'histoire, là aussi, il faut faire attention. Il n'a pas une théorie de l'histoire et ça n'est pas non plus un historien. C'est quelqu'un qui simplement se demande comment se fait-il que l'histoire soit compréhensible. Comment se fait-il que quelque chose qui est en devenir, qui est en mouvement, qui est en permanence, en changement, puisse faire l'objet d'une compréhension par l'esprit humain ? Et donc, il va essayer de montrer que finalement, une philosophie de l'histoire, et non pas une théorie de l'histoire, revient à montrer que dans le champ historique, dans le théâtre historique, se manifeste la même chose que celui qui observe l'histoire, en l'occurrence la raison. Les hommes qui agissent historiquement agissent rationnellement, raison pour laquelle leurs actions sont compréhensibles, elles sont rationnelles, et celui qui observe l'histoire l'observe également rationnellement, c'est-à-dire essaye de ressaisir dans l'histoire ce qu'il y a de compréhensible. Donc l'histoire est bien le théâtre de la raison. Donc de ce point de vue-là, on comprend pourquoi il fait une philosophie de l'histoire plus qu'une théorie de l'histoire. La dialectique maintenant, il y a une dialectique historique d'une certaine manière, mais la dialectique chez Hegel est partout, c'est plutôt une manière, si j'ose dire, mais le terme est un petit peu inadéquat, c'est plutôt méthodologique la dialectique, c'est une manière de suivre le développement de la pensée à même le réel. C'est-à-dire, si vous voulez, encore une fois, je reviens à l'idée de départ, chez Hegel, il faut refuser dès le point de départ la scission entre la pensée et le réel. Mais si on refuse une telle scission, ça veut dire que le mouvement même de la pensée est en même temps le mouvement du réel. Ça veut dire, pour le dire autrement, que si le réel est compréhensible, si je peux comprendre ce qui se passe dans la réalité, je ne peux rien faire d'autre que percevoir le mouvement même de ma pensée comprenant le réel. Donc, le mouvement de la pensée et le mouvement du réel sont les mêmes. Et la dialectique, c'est une sorte de cheminement sur cette identité entre la pensée et l'être.
Je voudrais revenir à cette notion de histoire comme théâtre de la raison, oui. Parce que la rationalité de l'histoire, mm-hmm. enfin, du point de vue de l'historien, n'est pas toujours évidente.
Oui.
Hegel appartient ou vit pendant cette période où il y a le romantisme allemand, on s'est lui-même à rencontrer des gens comme Schelling, Hölderlin, etc. On est plutôt dans une dimension plus sentimentale. Mm-hmm. Est-ce que cette notion de raison dans l'histoire, est-ce que c'est quelque chose de froid, quasiment de mécanique, ou est-ce qu'il prend aussi en compte la notion de passion humaine qui intervient et qui fait que toute décision n'est pas forcément rationnelle?
Alors, oui, la raison, pour comprendre ce que c'est chez Hegel, il faut bien voir que c'est tout simplement la question du sens. C'est simplement une manière de dire qu'il y a du sens dans l'histoire, et la philosophie doit rendre compte du sens de toute chose, et en particulier de l'histoire. Donc, si l'histoire a du sens, elle doit être rationnelle, et elle doit être le théâtre d'actions rationnelles. Je précise cela parce que ça veut dire qu'il n'entend pas rationnel au sens de l'économie classique, par exemple. C'est pas suivre un intérêt particulier en vue de l'optimiser. C'est pas du tout rationnel en ce sens-là, et ça n'est pas non plus rationnel au sens où l'entendrait un grec. Ça n'est pas le logos exactement qui serait le développement dans un discours ordonné d'une pensée ou d'une vérité. La raison chez Hegel, c'est le sens. Donc, faut toujours se rappeler cela. Et ce qu'il essaye de montrer, c'est que, comment vous dire, je suis désolé de répéter ce point-là, mais c'est tellement important. Le sens chez Hegel, c'est vraiment l'idée que si je comprends quelque chose, c'est qu'il y a une homologie entre ce que je comprends et moi-même. Donc la raison, elle est à la fois la mienne et celle des acteurs qui se développent dans l'histoire. Maintenant, vous avez parfaitement raison, il est dans une période romantique, on a une exaltation des passions, Hegel connaît très bien tout cela, et il voit par ailleurs que quand les hommes agissent, quand les acteurs agissent, ils n'agissent pas uniquement par raisonnement, au sens borné du terme. Donc, il va considérer que si la raison est du côté du sens, elle n'implique pas forcément qu'elle ne soit que du côté du raisonnement. Le sens est plus vaste que le raisonnement. La raison chez Hegel déborde le cadre du simple raisonnement. Par conséquent, il va y avoir une sorte de débordement de la raison vers la question des passions. Pour le dire plus simplement, pour qu'un sens s'accomplisse, il n'a pas besoin de ne faire appel que au raisonnement et à la rationalité pure. Il peut tout à fait faire appel aux passions. Je vous donne un exemple très simple. Si, par exemple, vous prenez une guerre extrêmement violente, dont le sens est pourtant très clair. Exemple typique, les guerres de la Révolution, défendre de manière nationale, pour l'une des toutes premières fois dans l'histoire, via une armée nationale, les conquêtes de la Révolution. Eh bien, le sens est très clair, donc le sens est très rationnel, on peut le comprendre. Et en même temps, pour qu'il puisse s'accomplir, il va falloir faire appel à un élément que sont les passions, et qui... les passions vont mouvoir les hommes de telle manière que le sens s'accomplisse. Et donc les passions vont être au service de la raison, au sens où elles sont au service du sens, et elles deviennent ainsi compréhensibles. C'est ça qu'il faut comprendre quand il dit que les passions sont rationnelles. Ça veut dire qu'elles sont compréhensibles pour l'observateur de l'histoire.
Alors, quand il parle de la philosophie du droit, qu'est-ce qu'il entend par cette notion de droit? Parce que là aussi, c'est un terme qui est polysémique, et on a une autre émission de cette série qui est consacrée à la vision du droit chez Hayek, qui est une vision... extrêmement juridique, si je puis dire, et que les avocats ou les juristes comprennent facilement parce que correspond à ce qu'on enseigne, notamment dans les facultés de droit. Chez Hegel, ça ne semble pas être tout à fait cette vision-là. Enfin, c'est pas forcément ce sens-là qui donne au droit.
Oui. Alors, c'est une question qui est très difficile, d'autant plus que le sous-titre des principes de la philosophie du droit comprend la notion du droit naturel. C'est quelque chose qui travaille Hegel depuis ses jeunes années, puisque en 1802, il avait publié un article très important sur le droit naturel. Et par la question du droit, il faut d'abord entendre la question du droit naturel. Alors, si vous me permettez, je vais faire un développement un petit peu long sur la question, parce que c'est un vrai problème de distinction avec l'approche libérale des choses. Hegel défend la notion du droit naturel, mais il ne la défend ni dans le sens antique qu'on a fini par retrouver avec les stoïciens, ni même dans le sens d'un Hobbes ou d'un Rousseau, c'est-à-dire d'une espèce de nature humaine universelle dans laquelle seraient inscrits des droits. Pourquoi ? Parce que la raison fondamentale chez Hegel, c'est ça qui le distingue des libéraux, c'est qu'il comprend très bien que la notion de droit naturel, notamment la notion moderne de droit naturel, suppose qu'on pourrait penser un individu dans un état de nature, c'est-à-dire indépendamment de toute forme de société, comme si une telle pensée avait un sens. Comme si ça avait du sens d'imaginer ce que serait l'individu en dehors d'un cadre social et en dehors d'un cadre, je dirais, institué. Or, premièrement, ça correspond typiquement à ce que Hegel appelle une abstraction. C'est-à-dire, je prends un individu, j'en fais une entité à part, je l'abstrais de son cadre social et je fais comme si ça avait du sens de le faire. À ses yeux, c'est typiquement une mutilation, une abstraction, et donc, au sens hegelien, c'est faux. Deuxièmement, il constate de manière assez fine que le droit naturel tel que les modernes le conçoivent a beaucoup de mal à se concilier avec le droit positif. Comme on a pensé le droit naturel à partir d'une abstraction, c'est-à-dire l'individu privé du cadre social, ça ne rejoint quasiment jamais la positivité du droit. Et donc le droit naturel, tel qu'il est pensé par les modernes, est quelque chose, si vous voulez, qui est condamné à ne pas s'accomplir, qui est condamné, pour parler de manière hegelienne, à ne jamais devenir effectif. Donc, qu'est-ce qu'il va faire ? En fait, il va faire une chose qui est un petit peu perturbante, j'imagine, pour des juristes, c'est qu'il va complètement redéfinir la notion de droit naturel en disant, finalement, le droit naturel, c'est la rationalité du droit positif. Le droit naturel, c'est le fait même que le droit positif soit, si je puis dire, compréhensible et qu'il corresponde à un sens possible. Donc c'est plus du tout le droit inscrit dans la nature humaine de manière abstraite et indépendamment de la réalité sociale, ça devient la rationalité même du droit positif et qui permet au droit positif d'avoir un sens compréhensible par la raison.
Et ce droit naturel, comment est-ce qu'ensuite il va l'articuler avec le droit positif et avec l'État donc qui réalise des lois, qui produit des décrets ?
Alors si on pose la question ainsi, la question de l'articulation, ça veut dire que d'emblée vous êtes dans la scission entre les deux. D'emblée vous partez d'un droit naturel dont on se demande comment on va le rattacher au droit positif. C'est exactement ce qu'il conteste. Ce qu'il va essayer de se demander tout simplement, c'est à quelles conditions le droit positif est-il finalement un droit ? A-t-il le sens du droit ? Eh bien, la question que je viens de poser, c'est exactement la question du droit naturel. Mais qui engage, en fait, le refus de la dissociation initiale que font les auteurs modernes entre droit naturel et droit positif. Le droit naturel est pris dans une abstraction qu'il conteste dès le départ. Le droit naturel et le droit positif, d'une certaine manière, sont la même chose pour Hegel. C'est simplement l'idée que le droit positif est un sens. Alors ensuite, la question de l'État est une question très compliquée chez Hegel, parce que là aussi, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas une chose. L'État n'est pas une institution réifiée qui ferait face aux citoyens. L'État, c'est un processus chez Hegel, c'est une dynamique qui permet tout simplement à la société civile d'acquérir son unité, d'acquérir une cohérence qu'elle n'a pas en tant que collection d'individus poursuivant des intérêts particuliers. Donc l'État, c'est la dynamique d'unification, c'est la dynamique de cohérence de la société civile. La question ensuite du droit par rapport à celle de l'État, Hegel la traite en grande partie par rapport au problème de la codification. Vous savez, il y a tout un débat autour du code civil pour savoir s'il faut adopter, oui ou non, le code civil qui était venu proposer ou imposer Napoléon. Ça dépend comment on voit les choses. Il y a des débats avec Savigny ou Thibault qui sont les grands juristes de l'époque. Et Hegel va considérer que le code civil, la codification, doit être typiquement l'œuvre de l'État en tant qu'unificateur de droits qui auparavant étaient un peu éparpillés, étaient un petit peu dispersés. Et donc on voit typiquement ici comment l'État va se rapporter à la question du droit. La codification est typiquement une œuvre en devenir, une œuvre dynamique d'unification qui permet de saisir le rôle de l'État chez Hegel.
Alors vous évoquez la notion d'État, comment est-ce que, ou est-ce que ça fait partie de sa réflexion que de réfléchir à ce que est-ce que pour être un bon gouvernement, le gouvernement peut être parfait, c'était une question tout au long de l'histoire de la philosophie, la manière dont on dirige également les populations. Est-ce que ça c'est une réflexion de Hegel ou est-ce qu'au contraire, il considère que c'est de la théorie politique et non pas de la philosophie politique et donc ça ne rentre pas dans son champ d'analyse?
Alors vous avez tout à fait raison, ça c'est typiquement une question de théorie philosophique, une théorie qui selon un tel donnerait des caractéristiques particulières à l'État et au gouvernement pour que ce soit un bon État et un bon gouvernement. Et encore une fois, ça n'est pas du tout la préoccupation de Hegel. Ce que Hegel va plutôt essayer de comprendre, ce sont les conditions auxquelles l'État peut être conforme à son concept. C'est-à-dire, pour le dire un petit peu différemment, dans la mesure où l'État est une dynamique, dans la mesure où l'État est un processus, encore faut-il comprendre conceptuellement le sens d'un tel processus. Et dans ce cas-là, l'État peut être plus ou moins conforme à la processualité dont il fait preuve. Et c'est ça véritablement l'exigence de Hegel, c'est que l'État soit conforme à son concept. Ce n'est pas qu'il soit respectueux d'un certain nombre de critères qui définiraient, selon Hegel, le bon État.
Et est-ce qu'il y a une autorité ou des personnes qui vont faire en sorte que l'État soit respectueux de ce concept ?
Oui. Oui, alors c'est là vous soulevez le problème de la souveraineté, entre guillemets. C'est un point qui est très intéressant parce que ça permet de comprendre notamment ce que Hegel reproche à Rousseau et de comprendre toute l'admiration et la critique en même temps qu'il adresse à Rousseau. Et par extension, toutes les critiques qu'il adresse aux théories contractualistes. Hegel, quand vous regardez l'ensemble des principes de la philosophie du droit, considère qu'il y a un acquis de la modernité sur lequel il ne revient jamais. C'est l'acquis, pour le dire simplement, de la volonté individuelle. Il est tout à fait évident, aux yeux de Hegel, que l'histoire passant, le fait est qu'aujourd'hui, on ne peut rien construire en dehors de la volonté individuelle et que la volonté individuelle est véritablement le fondement de tout et en particulier du politique. Donc de ce point de vue-là, on se dit, bon, on a affaire à un penseur contractualiste qui va essayer de penser par sommation des volontés individuelles un contrat où tout le monde trouve son compte ou son intérêt. Or, justement, Hegel pointe un problème énorme qu'on trouve, à mon avis, de manière maximale chez Rousseau, c'est qu'il y a une dimension magique chez Rousseau, il y a une dimension, en fait, presque alchimique, de transformation, où les volontés des individus, miraculeusement, tout d'un coup, deviennent la volonté du citoyen au sein d'un corps social dont on ne comprend pas très bien comment il se forme historiquement parlant. Donc, contre cette espèce de miracle de la transformation de volontés individuelles en corps social qui partagerait des intérêts communs, Hegel va avoir un argument qui est très fort, qui consiste à dire « la grande erreur des modernes, c'est tout simplement d'avoir cru que l'individu était un fait premier ». Hegel dit évidemment que la volonté individuelle est un fondement. Ça n'implique pas qu'elle soit première. Les individus sont en fait des résultats. Ce ne sont pas des éléments abstraits qui précèdent la suite. Ce sont les résultats d'une formation sociale. Et l'originalité de Hegel, qui fait que ça n'est pas un marxiste par ailleurs, c'est que tout en admettant que l'individu est un résultat d'un monde social, il ne nie pas l'individualité. Et il en maintient même la dimension de fondement pour la suite. Donc, ce qu'il essaye de montrer, c'est qu'en réalité, l'individualité, qui est le point de départ, mais qui n'est pourtant pas l'élément premier, c'est ça qui est difficile à comprendre, elle est le résultat du monde social, doit être prise en compte pour former la question politique.
Oui, c'est une pensée assez originale. Et est-ce qu'il se positionne par rapport à la Révolution française ? Parce que les penseurs du XXe siècle, alors soit ils vont être révolutionnaires, adhérents plus ou moins à la Révolution, soit contre-révolutionnaires, donc s'y opposant plus ou moins. Hegel, dans sa définition de la philosophie politique, l'événement révolutionnaire, est-ce que ça a pu changer ? Est-ce que ça rentre en compte dans sa réflexion ?
Oui, tout à fait. La révolution occupe même un pan important de la phénoménologie de l'esprit en 1807. C'est typiquement un événement à ses yeux nécessaire, pas nécessaire au sens où c'était moralement nécessaire, mais ça fait partie de la nécessité interne des choses quand on comprend les nécessités internes au développement historique. Il comprend même que la terreur faisait partie de manière nécessaire de ce que contenait 1789. Et à cet égard, pour lui, c'est un événement fondamental qui appartient à la nécessité même du développement historique et à partir duquel on ne peut plus penser comme s'il n'avait pas eu lieu. Donc Hegel n'est pas du tout un réactionnaire. Hegel n'est pas vraiment non plus un conservateur de ce point de vue-là. Mais ça n'est pas non plus un révolutionnaire au sens d'un progressiste. Ça n'est pas quelqu'un qui considère que on doit poser, avant même que les choses aient lieu, la direction qu'elles devraient emprunter pour que le progrès ait lieu. Vous connaissez la formule qui est dans la préface des principes de la philosophie du droit. La chouette de Minerve ne prend son envol qu'à la tombée de la nuit. Ça veut dire, un philosophe n'a pas à dire ce qui doit arriver par la suite. Un philosophe doit impérativement se ressaisir de ce qui a eu lieu, comprendre ce qui s'est passé, comprendre la nécessité interne de ce qui s'est passé, et certainement pas statuer sur ce qui serait souhaitable et sur le type de progrès dont il serait en attente. Donc c'est quelqu'un qui admet la nécessité des choses, les choses ayant eu lieu, on ne peut plus revenir en arrière, ça l'empêche d'être réactionnaire, et en même temps, dans la mesure où la philosophie est une réflexion sur ce qui s'est passé, une compréhension de ce qui s'est passé, il ne peut pas non plus être progressiste ni auteur d'utopie.
Quel est le... l'importance de Hegel en son temps. Pourquoi est-ce qu'on le lit encore aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'on l'a lu à son époque? Il a une influence réelle déjà de son temps, de son vivant?
Alors, il a une influence fondamentale parce qu'il appartient à tout un cercle dès sa jeunesse qui quand même constitue l'essentiel de la philosophie allemande à partir de 1801-1802, concrètement parlant. Et par ailleurs, il va avoir progressivement des positions institutionnelles de plus en plus importantes. Vous l'aviez rappelé au début, il a fini par enseigner à Berlin, ce qui n'est pas rien. On a de fait une influence quand on enseigne à Berlin. Et en plus, il va y avoir une sorte de fascination, peut-être pour la complexité même du système, qui va donner envie d'essayer de comprendre. On se dit, si c'est tellement difficile, c'est que ça doit être très profond, ça doit être juste. Et ça va donner, je crois, psychologiquement une influence à Hegel sur aussi bien ses contemporains que la suite. Et ce qui est très intéressant, si vous regardez la postérité immédiate, c'est que ça bifurque immédiatement. Vous avez ce qu'on appelle les jeunes hegeliens, qui sont des hegeliens de gauche, Marx, Bauer, Engels, etc., Max Stirner aussi, qui vont tirer Hegel vers des pensées, disons, socialistes, voire plus. Et vous allez avoir les vieux hegeliens, concrètement les hegeliens conservateurs ou de droite, qui vont au contraire y voir un système de refus de l'utopie, un système de refus du progressisme, pour les raisons qu'on a dites auparavant, et qui vont tirer Hegel vers plutôt une pensée conservatrice. Donc on voit que très rapidement, la réception même de la pensée de Hegel est compliquée. Elle n'est pas d'une clarté incroyable.
Oui, c'est moins qu'on puisse dire, surtout pour l'avoir expérimenté lorsque j'étais étudiant, c'était pas toujours extrêmement clair. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir justement la complexité de ce système fait qu'il a pu être utilisé ou qu'il a inspiré des mouvements assez variés, de Marx jusqu'à des mouvements beaucoup plus classés à droite. Donc ça montre aussi la richesse de sa pensée qui a pu abreuver différentes pensées, différentes personnes.
Oui, ça tient, je crois, au fait que on est toujours un peu frustré quand on lit Hegel pour les raisons que j'ai dites au départ, dans la mesure où il n'y a pas de théorie. Donc on peut tout à fait prendre le système hegelien, puis rajouter une théorie. Et selon la théorie qu'on y rajoute, en fait, ça penchera à gauche, à droite, au centre, où on veut d'une certaine manière. C'est l'absence même de théorisation chez Hegel, je pense, qui fait qu'on peut le retrouver un peu partout.
Est-ce que la notion de morale, d'éthique, a un sens chez Hegel? Est-ce que ça rentre dans sa réflexion philosophique?
Oui, ça rentre totalement dans sa réflexion philosophique, en un sens qui est très déroutant dans un premier temps, puisque la morale appartient au principe de la philosophie du droit. C'est-à-dire qu'il y a une partie entière qui y est consacrée, ce qui est très déroutant. Il n'y a pas de philosophie morale autonome chez Hegel. Ça tient au fait, tout simplement, que chez Hegel, c'est toujours la même difficulté de départ. Il y a un refus structurel de penser de manière abstraite. Et si on dit qu'il y a un domaine autonome de la philosophie morale, ou même de la moralité, c'est-à-dire des intentions subjectives, eh bien ça voudrait dire qu'on pourrait penser les intentions subjectives indépendamment de ce qui est faisable, indépendamment des conditions concrètes dans lesquelles on peut agir. Or, la morale chez Hegel, ou plus précisément la moralité, ce n'est pas uniquement l'examen des intentions, ce n'est pas uniquement l'examen de la bonne volonté, pour parler comme Kant. C'est l'examen conceptuel de ce qu'une bonne volonté dans des circonstances historiques et sociales données peut effectuer. Or, ce que peut effectuer concrètement une bonne volonté se définit d'abord et avant tout par les normes en vigueur. De ce fait, il est strictement impensable pour un penseur qui refuse l'abstrait de séparer la question morale de la question politique et de la question du droit. Et c'est la raison pour laquelle la morale se trouve dans les principes de la philosophie du droit.
Et sur quel fondement va-t-il établir cette morale? Parce qu'on a vu en première émission la notion de droit naturel. Beaucoup de penseurs fondent la morale sur le droit naturel. Or, on a vu qu'Hegel avait une vision assez différente, du moins de la philosophie antique. Il faut bien qu'il y ait des principes, justement, moraux qui ne vont pas changer, qui sont intangibles.
Alors, pas forcément.
Oui, c'est vrai que ça dépend des philosophies.
Un principe intangible, c'est un principe qui fait abstraction du temps. Donc, c'est abstrait.
Oui.
Donc, ça n'est pas hegelien. Si vous voulez, si on le disait de manière nietzschéenne, ce serait une fuite devant le réel, un principe intemporel. Ce serait une manière de ne pas assumer le temps ni le devenir. Et Hegel, de ce point de vue-là, à mon avis, préfigure Nietzsche. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va faire deux choses. Il va dire, premièrement, la philosophie antique, du point de vue éthique, est inactuelle, au sens où elle est historiquement non pertinente. Aujourd'hui, le fait est, peu importe que ce soit souhaitable ou pas, ça n'est pas son objet, le fait est qu'on ne peut pas penser la moralité indépendamment d'une subjectivité et d'une volonté individuelle. Par ailleurs, il va appeler, c'est un concept très célèbre chez Hegel, Sittlichkeit en allemand, l'éthicité en français, bon, c'est un drôle de néologisme, il va appeler Sittlichkeit l'ensemble, disons, des mœurs et des coutumes dans lesquelles s'insère l'action d'un agent ou d'un sujet. Donc c'est une articulation, je dirais, intimement entremêlée de la volonté d'un sujet relativement à des normes éthiques, donc la fameuse Sittlichkeit, qu'en réalité le sujet a incorporé. C'est-à-dire, il ne faut pas s'imaginer qu'il y aurait d'un côté celui qui agit, et puis de l'autre les mœurs ou les coutumes d'une époque qui lui seraient extérieures. En réalité, la Sittlichkeit, c'est quelque chose qu'on incorpore, qui finit par aller de soi, et qui fait que ce que je veux finit par coïncider avec les normes d'une époque. Donc ce ne sont pas des normes externes qui s'imposent à moi, ce sont des normes qui me structurent, qui structurent ma volonté, et qui font que ma volonté finit par s'accorder aux normes. Par exemple, je pense que personne ne veut sortir nu, tout le monde veut être habillé. Il est évident que c'est un système éthique qui veut cela. Il est évident en même temps que c'est bien ce que je veux. Donc, on voit typiquement ici un phénomène moral au sens de Hegel. Voilà ce que je veux, ça correspond à la Sittlichkeit, ça correspond à un état des mœurs et à une situation géographique des mœurs, ça s'accorde et donc on a affaire à ce qu'il appellerait la morale.
Cette morale, elle peut changer justement, on peut la... Ou est-ce que, considérant que le temps n'est pas de son registre, ce n'est pas son sujet justement de réfléchir à une évolution de la morale?
Oui, la morale c'est comme l'état, ça n'est pas une chose. Et comme ça n'est pas une chose, ça n'est pas une réalité intangible qui ferait face au sujet. La morale, c'est un processus dans lequel entre en dialectique, c'est le cas de le dire, la volonté individuelle et les mœurs, et donc c'est mouvant, c'est quelque chose qui évolue en permanence. Ça n'est pas, encore une fois, un corpus doctrinal qui serait fixé une bonne fois pour toutes par une révélation ou par je ne sais trop quoi.
Quelle est chez lui sa réflexion sur la liberté, évidemment la liberté humaine, dès qu'on parle de politique, évidemment c'est la grande question, enfin une des grandes questions. Est-ce que c'est un élément qui a aussi fait partie de sa réflexion et de la manière dont l'homme peut être ou non libre?
Alors oui, c'est sans doute le mot le plus important de la pensée de Hegel, bien au-delà de la question politique. La liberté chez Hegel n'est ni cantonnée à la sphère morale, ni à la sphère politique. La liberté... Jusqu'à un certain point, on peut dire que c'est la caractéristique fondamentale de l'esprit. En quel sens ? C'est ça qui est assez compliqué à comprendre. C'est que la liberté n'est ni une propriété, ça n'est pas une propriété de la volonté comme le libre arbitre, par exemple, et ça n'est pas non plus quelque chose qui aurait à voir avec le choix. Ce sont des choses totalement différentes. La liberté, chez Hegel, c'est l'action de l'esprit, quel que soit le domaine, de telle manière que, pour reprendre sa célèbre définition, l'esprit soit chez lui en son autre. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, il faut se représenter, je pense, la liberté comme un phénomène de colonisation. C'est-à-dire, finalement, la liberté, c'est la possibilité pour l'esprit de se retrouver lui-même dans ce qu'il n'est pas. C'est-à-dire, le monde extérieur, qui m'apparaît comme extérieur dans un premier temps, finit par avoir un certain sens. Quand je comprends que le sens que revêt le monde extérieur est le sens de l'esprit, ça veut dire que l'esprit est bien chez lui dans le monde extérieur. Par exemple, si je vous regarde et que je vois en vous un être humain, il est évident que je conceptualise ce que vous êtes et que si j'analyse ce qui se passe, vous n'êtes plus pour moi un être extérieur dans la mesure où le sens que vous avez procède de l'esprit. Et donc mon esprit se retrouve bien en vous, c'est-à-dire dans le sens qui est le vôtre, et donc il n'est pas, si je puis dire, un étranger par rapport au monde extérieur. Il est chez lui dans le monde extérieur. C'est-à-dire, l'esprit retrouve son propre sens dans le monde des choses. Et de ce fait, ça revient à dire une chose très simple, la liberté. Ça revient à dire, le monde n'est pas un obstacle. Le monde n'est pas un étranger. Le monde est ce qui m'est familier parce que je peux retrouver en lui le sens de l'esprit.
Et par rapport à cette question de liberté, comment il conçoit aussi le rapport entre la personne humaine et la structure étatique, la structure sociale, et donc comment la personne peut établir sa liberté par rapport à cette structure?
Alors la personne, vous avez raison d'aller sur ce terrain-là, c'est la base du droit. Le droit chez Hegel provient essentiellement de la personnalité. Et pour rebondir sur la question précédente, à vrai dire, il y a un lien intrinsèque entre la personnalité et la liberté. C'est-à-dire, il y a un lien intrinsèque entre la base du droit et la liberté. Pourquoi ? Parce que, en fait, établir des relations de droit ça revient tout simplement à dire que le monde extérieur peut, de mon point de vue de personne, recevoir progressivement un sens juridique. C'est-à-dire, je peux tout à fait coloniser de manière de plus en plus extensive le monde pour lui conférer un sens juridique. C'est-à-dire, en fait, la personne s'étend. La personne colonise le monde pour lui donner une vision juridique. Par conséquent, l'État qui est lui-même un processus, l'État qui n'est pas une chose, l'État va servir, entre autres choses, à être le processus qui garantit l'extension du droit à partir de la personne.
Autre question sur ces réflexions justement de personnes, de liberté et d'État. Est-ce que Hegel a pensé l'ordre international ? Alors on connaît évidemment le principal ouvrage de Kant sur cette question-là, sur la paix perpétuelle. Est-ce que ça fait partie de la réflexion de Hegel, cette question de guerre, de paix, d'ordre entre les nations, de constitution d'une sorte d'international ?
Oui, alors oui. Hegel a lu de très près l'idée universelle, l'idée d'une histoire universelle d'un point de vue cosmopolitique de Kant, qui est vraiment un ouvrage essentiel pour comprendre Hegel. D'une certaine manière, il lui répond, sachant que Hegel est quelqu'un qui connaît très 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 bien la question du droit des gens, qui connaît très bien Grotius, qui connaît très bien tous les débats du XVIe et du XVIIe siècle, que Kant lui-même reprend en partie. Alors pour le dire assez rapidement, Hegel considère qu'on ne peut pas dépasser le cadre étatique. Le cadre étatique est un stade maximal du point de vue politique. Un dépassement fédéraliste des États-nations est à ses yeux impossible. Pourquoi ? Pour deux raisons. Mais encore une fois, c'est pas la théorie hegelienne. C'est du point de vue de Hegel, ce serait plutôt la nécessité du concept d'État qui n'est pas compatible avec la possibilité de dépasser l'État. Pourquoi ? Parce qu'en fait, un État, c'est la constitution d'un peuple. Un État, c'est la dynamique par laquelle une société trouve sa cohésion, sa cohérence, et finalement devient un peuple. Alors, il faudrait conjuguer cela avec la question de l'esprit objectif et de l'esprit universel, mais là, ça deviendrait assez compliqué. Je reste uniquement sur le terrain de l'État. Donc, si conceptuellement l'État, c'est finalement le processus par lequel une société trouve sa cohérence, et par lequel le peuple, si je puis dire, devient peuple, il serait totalement contradictoire avec le concept d'État que l'on aille au-delà de l'État. Ça voudrait dire qu'il faudrait aller par-delà les peuples, et là on sortirait totalement du domaine politique. Donc Hegel considère véritablement, de ce point de vue-là, que le concept d'une fédération d'État-nation est un concept contradictoire. La deuxième raison, c'est que la constitution du peuple, en fait, correspond à ce que Hegel appelle un sujet. Un sujet, chez Hegel, c'est à chaque fois qu'on a affaire à une totalité, une sorte de totalité organique, qui agit comme un, qui agit de manière unifiée. Or, le sujet, c'est le terme ultime de la philosophie chez Hegel. On ne peut jamais aller au-delà du sujet, on ne peut jamais dépasser le point de vue du sujet, c'est-à-dire en fait de l'unité. Si vous allez au-delà du peuple organisé par l'État, vous tombez dans des choses qui sont tout à fait aberrantes du point de vue de la constitution de l'unité. On ne peut pas constituer une unité au-delà d'un sujet. C'est strictement impossible. Or, le peuple étant un sujet, aller au-delà serait aberrant. On
pourrait lui répondre que ça, c'est une pensée typiquement allemande, parce qu'effectivement, les Allemands pensent l'État et le peuple. Mm-hmm. En Italie, ça a été tout autre, puisque pendant longtemps, il y a eu un même peuple, mais divisé entre plusieurs États.
C'est la raison pour laquelle, aux yeux de Hegel, l'État italien n'a pas encore atteint son concept.
Il l'aura atteint 50 ou 60 ans plus tard, effectivement, avec la réunification italienne.
Ça va plutôt dans le sens de Hegel, ce que vous dites.
C'est vrai. pas au moment où il écrit, mais effectivement, dans le processus historique, ça confirme Hegel, et ça montre aussi, d'ailleurs, que sa pensée, d'abord, s'inscrit bien dans le contexte allemand, et peut avoir des conséquences politiques précises. D'ailleurs, tout à l'heure, vous évoquiez les influences que ça a pu avoir. Évidemment, dans le mouvement d'unité allemande avec Bismarck, par exemple, c'est des choses qui ont pu être reprises. Dernière question, Thibaut Grèce, pour terminer notre entretien, puisque nous arrivons au terme de celui-ci, sur la postérité de Hegel. On a évoqué tout à l'heure, en disant qu'il y avait des gens extrêmement variés et de tendances parfois différentes qu'il avait reprises. Mais aujourd'hui, dans l'histoire de la pensée européenne, quelle est la place de Hegel ? On voit qu'il est étudié en France, il est dans les programmes officiels, il est même réédité en français, ce qui est quand même assez rare. Il y a peu de philosophes qui sont édités comme ça 150 ans ou plus après leur mort, ou même deux siècles maintenant. Quelle est la part particulière de Hegel et en quoi est-il important de le lire et de le connaître ?
Alors, c'est une question assez vaste. Encore une fois, quand on étudie Hegel, c'est un drôle de moment parce qu'on n'étudie pas des théories et donc on n'étudie pas des positions sur telle ou telle question. Mais c'est vrai que du point de vue historique, il est indispensable pour comprendre le courant marxiste, puisque le marxisme va reprendre la dialectique tout en la renversant, c'est-à-dire en considérant que la pensée n'est certainement pas un point de départ, mais au contraire est un produit de structures économiques qui échappent elles-mêmes à la pensée, mais qui la produisent. Et puis, par la suite, Hegel va avoir va être au centre d'un certain nombre de discussions. D'une part, je pense, faut pas négliger cet aspect-là, parce que Popper a consacré un livre, La société ouverte et ses ennemis, en partie à Hegel et en partie à Marx. Et c'est assez intéressant parce que Popper, dans mon souvenir, n'avait pas les livres de Hegel sous les yeux quand il a écrit, donc se trompe énormément et dit même des choses qui sont aberrantes sur Hegel. Mais ça a remis Hegel, notamment, au centre de l'attention des libéraux. Et puis, vous allez avoir toute une discussion, notamment avec Habermas, ou toute cette partie-là de la philosophie allemande contemporaine, qui discute beaucoup avec Hegel. Vous allez avoir, un petit peu avant, le fameux séminaire d'Alexandre Koyev à l'École des Hautes Études, où vous allez avoir Merleau-Ponty, Queneau, Aron, etc., qui, en France, va créer une réception de Hegel qui est absolument fantastique, plus les écrits d'Eric Weil, qui sont des écrits assez importants, je pense. Donc, vous allez avoir, pour des raisons très différentes, soit de combat de la part de Popper, qui voit vraiment chez Hegel une préfiguration du totalitarisme, soit chez des marxistes comme Koyev qui vont se dire faut comprendre Hegel pour comprendre Marx, etc. Soit encore pour des raisons de reconnaissance. La question de la reconnaissance chez Hegel est centrale. On trouve ça chez Honneth, Axel Honneth. On trouve ça en partie aussi chez Habermas au départ. Pour des motifs très différents, Hegel reste d'actualité. Je crois que le point vraiment fécond chez Hegel, qui peut toujours aujourd'hui être intéressant, c'est que c'est vraiment quelqu'un qui arrive à penser en même temps l'importance de l'individu et de la volonté individuelle, et en même temps l'idée que l'individu ne devient véritablement lui-même qu'au sein d'une communauté. Il ne mutile ni l'un ni l'autre. Et quand on a compris ça, quand on comprend qu'on n'est pas un individu face à une collectivité qui nous serait extérieure, et qu'on n'est pas non plus dissous dans la collectivité, je crois que quand on comprend ça, on peut vraiment comprendre l'utilité de Hegel pour saisir les problèmes sociaux et politiques.
Merci beaucoup Thibaut Grèce. Je rappelle que vous êtes professeur en Cagne au lycée Blomé, que vous avez publié plusieurs ouvrages dont récemment un ouvrage collectif chez Ellipse qui s'intitule « La philosophie en 60 livres », très commode pour les élèves de terminale ou les étudiants qui ont besoin d'avoir des fiches essentielles sur les grands livres de la philosophie. Et puis je renvoie également nos éditeurs à nos autres émissions de cette série d'été consacrée à la philosophie politique que vous pouvez retrouver sur le site internet de Conflit, revueconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez acquérir nos derniers numéros, dont le numéro actuellement en kiosque « Terrorisme, la menace sans fin » et puis notre hors-série numéro 12 « Géopolitique de la santé ». Et encore une fois, en vous abonnant, ou en faisant également abonner vos amis pour cet été, pour qu'ils puissent avoir une lecture géopolitique durant l'été et pendant l'année qui vient, eh bien, vous permettez ainsi à Conflit de se développer et de vous proposer l'ensemble de ses contenus, podcasts, vidéos ou articles en accès libre. Merci pour votre fidélité et à très bientôt.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.